Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'action directe des militantes et militants d'action directe emprisonnés après 18 ans de prison, 18 ans après leur condamnation à perpétuité. Mais avant de revenir sur la manifestation qui a eu lieu ou les manifestations qui ont eu lieu samedi 26 février un peu partout en France et en particulier celle de Bapaume où nous nous sommes rendus, on va revenir sur une interview qu'on avait réalisée en 2000, puisque Alain Pojola, un des animateurs du collectif Ne laissons pas de faire, qui est un des collectifs qui s'est mobilisé pour la libération des militantes et militants d'Action Directe, était venu dans cette émission nous dire 14 ans, ça suffit, libérer nos camarades. Et donc, on va vous repasser un extrait de cette émission, puisqu'il en avait profité pour revenir sur l'histoire d'Action Directe. Vous parlez d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et donc pour éclairer un petit peu nos lumières, Alain est avec nous. Au cours des années 70 et 80, un groupe d'extrême gauche qui s'appelait Action Directe a donc existé, et aujourd'hui une partie d'entre eux sont en prison. Est-ce que Alain, on peut revenir sur l'origine de ce groupe et les actions qu'ils ont menées?
C'est bien malheureux quand tu dis que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une continuité dans le soutien à ces militants et que pendant des années, ils sont restés très isolés et peu soutenus par l'extérieur. Et ça a permis en fait à l'État de pouvoir véritablement disposer d'eux et leur faire subir les pires conditions de détention sans que personne ne s'émeuve autour de ça. C'est juste une aparté par rapport à ce que tu dis. Alors Action Directe, c'est un groupe qui est né en 79, qui en fait était constitué de militants qui venaient de bords politiques différents. Il y avait des militants antifranquistes qui s'étaient opposés, y compris les armes à la main, contre la dictature. Il y avait deux autres militants, Nathalie Ménigon et Georges Cipriani, qui eux étaient directement issus de situations de lutte, quoi, de lutte, qui étaient des salariés, qui dans leurs entreprises respectives avaient milité, soit dans des organisations syndicales. Je rappelle que Nathalie Ménigon, sa première action, ça a été un soutien à une grève extrêmement dure qui se passait dans son entreprise et où elle était jeune syndiquée et tout à fait révoltée par ce qui se passait, une grève avec occupation dans laquelle les flics étaient intervenus et dans laquelle il y avait peu de gens qui véritablement s'étaient investis à mort avec les grévistes et où, bon, Nathalie, elle faisait partie de ces gens-là. Quant à Joël, bon, Joël, c'était une militante des squats dans les années fin des années 70, qui en fait faisait partie de mouvements dont sont issus pas mal de gens, y compris des gens qui passent à la radio à Fréquence Paris Pluriel aujourd'hui. Quoi. Donc on a voulu essayer d'expliquer que c'était un petit groupe qui était coupé de toute réalité, alors que en fait. La lutte armée en France, ça a été le produit d'une réalité de violence de masse assumée par un mouvement qui était beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, qui était la fin des années 70. En gros, 68, la fin des années 70, la désillusion de l'incapacité d'un projet politique pour les groupes d'extrême gauche à véritablement concrétiser la période pré-révolutionnaire qui avait été mai 68, un certain discours qui incluait la violence politique comme mode d'expression, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler quand même que tous les groupes révolutionnaires à l'époque disaient « le pouvoir est au bout du fusil, nous sommes les nouveaux partisans », chaque organisation politique avait un service d'ordre qui n'hésitait pas à s'affronter très violemment avec la police, hein, il faut bien le dire. Avec une situation internationale qui était quand même aussi extrêmement tumultueuse. Il y avait bien sûr le maire rampant italien avec l'autonomie qui commençait à avoir des aspects armés, des fractions armées. La constitution de groupes armés directement comme Prima Linea ou les Brigades Rouges. un mouvement anti-impérialiste allemand avec la création de la RAF, les cellules révolutionnaires, le mouvement du 2 juin, la révolution portugaise, qui, même si elle n'avait pas été violente, était juste après la défaite du Chili, était un espoir européen de pouvoir éventuellement remettre en cause l'ordre établi d'une façon complètement différente de ce que nous prenaient à l'époque les artisans de l'Union de la Gauche. Alors donc, c'est dans ce cadre-là que s'est développée Action Directe, c'est-à-dire des militants implantés dans des réalités et pas des zombies ni des extraterrestres, et un contexte qui favorisait ça. Alors le premier acte qu'a signé l'organisation Action Directe, ça a été le mitraillage du CNPF le 1er mai 79. Donc ça ramène, c'est très marrant parce que le 1er mai 2001, la Ligue communiste a été jetée des yaourts sur la façade du CNPF. On pourrait dire autretemps...
Du MEDEF
maintenant, pardon.
C'est pour ça que c'est plus les mêmes...
C'est pour ça,
le comité des forges non plus.
Donc il y a eu une désescalade importante de la lutte armée en France au cours des dernières années. Bon, en gros, voilà d'où vient Action Directe. Après, ils se sont directement investis sur des questions comme la rénovation du quartier de la rue Vercingétorix et de la rue de l'Ouest en signant des sabotages contre les bulldozers, tout ce qui participait à la rénovation du quartier, enfin à la démolition de l'aspect populaire du quartier. Ensuite, dans la première phase d'Action Directe, la dernière chose avant qu'ils ne subissent les rigueurs de la répression, ont été de mitrailler le ministère de la Coopération, qui était carrément impliqué, qui continue à l'être d'ailleurs, dans l'exploitation capitaliste de l'Afrique, et puis un certain nombre de guerres coloniales comme le Tchad, des choses comme ça. Et donc ils ont fait très peur à Robert Gallet, qui était dans son bureau et qui s'est couché par terre pendant une fusillade qui a pas plu du tout au pouvoir. Donc voilà, ça a été la première partie de l'organisation Action Directe. C'est terminé par l'arrestation des membres fondateurs d'Action Directe et d'un nombre important d'arrestations de sympathisants. Ensuite, il y a eu... alors, leur arrestation s'est faite dans des conditions un peu tumultueuses rue de la Pergolèse. Et à cette époque-là, on avait reproché à Nathalie Ménigon d'avoir tiré sur les flics qui voulaient l'arrêter. Et a priori, donc, c'est pour ça qu'elle a été la dernière à avoir été relâchée quand il y a eu l'avènement de l'Union de la Gauche en 81 avec la victoire de François Mitterrand. Il avait fallu à l'époque qu'elle fasse une grève de la faim importante pour que enfin on arrive déjà une grève de la faim importante pour qu'on arrive à la libérer. Donc ces militants après sont ressortis donc après donc l'élargissement de l'ensemble des prisonniers politiques en 81 et ont tenté d'avoir une activité politique ouverte. C'est-à-dire qu'ils ont investi un certain nombre de squats dans le quartier de la Goutte d'Or. Ils avaient comme perspective de faire une radio. Ils sont dotés d'un programme politique qui était extrêmement classique, vraiment.
Tu es sur quel type de base?
C'était sur on a raison d'occuper les maisons vides, un manifeste par rapport au salariat, des choses comme ça. Tout ce que colportait le mouvement dit autonome à l'époque, en fait, était théorisé et mis sur une plaquette par Action Directe. C'est-à-dire que ce n'était pas un groupe qui, d'emblée, avait fait le choix de devenir un groupe armé. Alors il y avait, bien sûr, enfin de continuer sous la nouvelle forme après leur première libération, de retourner à la lutte armée. Ce n'était pas un choix délibéré de leur part. Alors il y a beaucoup de choses qui ont contribué à ça. Ça a été la volonté de criminalisation immédiate de la part de l'appareil policier qui n'avait pas du tout accepté leur libération en 81. Et donc, à partir de là, il y a eu un tas d'embrouilles dans des squats, dans des entourloupes et des pièges tendus aux militants d'Action Directe qui ont fait qu'ils ont commencé à être criminalisés petit à petit et ils ont fait le choix de retourner à la clandestinité et de monter une organisation armée. Et ça, c'est dans tout au cours des années, disons, entre 82 et 84 que s'est développée un peu cette dualité entre activité publique ou activité clandestine, avec chez eux, y compris des gens qui était plus mouvementiste que certains qui ont voulu rejoindre immédiatement un combat internationaliste dans lequel ils avaient comme partenaire privilégié, entre autres, la RAF.
Qu'est-ce que tu définis par mouvementiste ?
Mouvementiste, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas couper avec une réalité militante et continuer à travailler d'une manière ouverte et non clandestine avec ce qu'il y avait de mouvements autonomes qui continuaient à exister, c'est-à-dire des groupes de travailleurs immigrés, entre autres, des groupes qui intervenaient sur des entreprises et qui comptaient continuer à développer, en dehors du mouvement syndical organisé, des collectifs autonomes.
Alors, si on continue à avancer dans l'histoire du groupe Action Directe, donc dans les années 80, il se constitue en groupe armé. Il y a donc l'assassinat de Besse et de Audran. Est-ce qu'on peut dire quand même deux mots sur ces personnages assez troubles qui ont été les cibles de cette organisation ?
Ben, Georges Besse, le patron des usines Renault, était dénoncé quelque temps avant sa mort par l'Humanité comme étant le boucher Besse, c'est-à-dire qu'on était déjà aux périodes de restructuration dans lesquelles on liquidait des emplois. Et donc, en tant que tel, c'était un patron de choc comme Pellet, Antoine Seillière ou autre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une cible de choix pour qui veut au premier degré mener une guerre populaire contre l'oppresseur. Quoi. Je veux dire que c'était quand même relativement... Une cible potentielle pour un groupe d'extrême gauche armée. Quant au général Audran, bon, il avait été impliqué dans des trafics d'armes, enfin impliqué dans des trafics d'armes, pesons nos mots. Disons que c'était un marchand d'armes attitré par l'État français et qui avait le droit en tant que tel de faire du commerce avec l'Irak ou avec l'Iran en pleine guerre Irak-Iran. Et donc, en tant que fauteur de guerre, bon, les militants d'Action Directe ont jugé bon de mettre fin à ces jours. Alors moi, je voudrais préciser que c'est une position politique qui regarde les militants d'Action Directe et que les membres du collectif ne laissant pas faire ne sont pas forcés d'adhérer. Quoi. On n'est pas au collectif ne laissant pas faire pour soutenir les actions d'Action Directe pendant toutes ces années, mais on est là pour les soutenir en tant que prisonniers ayant une identité politique, alors que l'État voudrait les ravaler simplement à des délinquants, point à la ligne.
Alors justement, avant d'arriver à ces questions du traitement actuel des prisonniers d'Action Directe en prison, est-ce qu'on peut finir cette histoire ? Donc après ces assassinats, ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés. Comment se passe ce procès ?
Donc ils sont arrêtés en mars 87. Ils sont immédiatement mis à l'isolement, mais alors l'isolement le plus total, à savoir que... les parents des uns et des autres n'ont pas pu les visiter avant plusieurs mois. On a construit pour les filles...
Alors peut-être préciser qu'il y a quatre qui sont arrêtés.
Il y en a quatre qui sont arrêtés. Il y a Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillant, Georges Cipriani et Joël Aubron sont arrêtés à Vitry-aux-Loges dans une ferme qu'ils avaient louée par un appareil policier impressionnant et tout. On les ramène. Alors il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y avait eu des attentats massacres en été 86, Tati, la poste de l'hôtel de ville, et que Pasqua voulait terroriser les terroristes. C'est-à-dire que volontairement, l'État à l'époque a joué la confusion entre le fait d'essayer de traquer les auteurs des attentats d'origine moyenne-orientaux, d'après ce qu'ils disaient à l'époque, et de faire la confusion avec les militants d'Action Directe qui, eux, étaient recherchés pour des assassinats politiques et individuels et non pas pour des actes terroristes. Les militants d'Action Directe n'ont jamais été des terroristes et c'est une des premières choses qu'il faut mettre à leur crédit, c'est que ce ne sont pas des militants terroristes, ce sont des militants qui ont mené la lutte armée. Donc ils sont arrêtés en mars 87. Bon, immédiatement ils sont mis au secret. Les uns à la prison de Fresnes pour les garçons et à la prison de Fleury-Mérogis pour les filles. Alors pour les deux filles, on crée une section spéciale qui s'appelle la D11R, qui leur est réservée, dans laquelle on vide des cellules autour d'elles, on met des triples rangées de barreaux, On les laisse aller en promenade dans des cellules vides au dernier étage, c'est-à-dire avec simplement le jour qui passe à travers des grillages. Bon, ce sont des toutes petites cours de promenade minuscules dans lesquelles on va même, ça c'est Joël qui nous l'a dit après, on va même jusqu'à traquer le moindre brin d'herbe qui pourrait ramener un soupçon de rappel de la vie réelle dans l'enfer qu'ils vivent pendant des mois et des mois. Alors bien sûr arrive l'époque des procès après des nombreux mois. Alors il faut dire également que en toute logique avec eux-mêmes, ils refusent complètement de collaborer avec la justice et ils ne facilitent pas les investigations des juges antiterroristes dont en particulier Jean-Louis Bruyère. Ça, il faut dire que dès le départ, ils ont décidé d'avoir une attitude de rupture par rapport avec le pouvoir, ce qui fait que jamais, véritablement, ils n'ont voulu se battre sur le terrain judiciaire. Et ça s'est vu jusqu'à dans leur procès où, pour justement protester contre l'isolement dans lequel ils étaient tenus, ils ont fait deux longues grèves de la faim, une de 98 jours et une de 112 jours, dans lequel ils arrivaient au procès, cloués sur des fauteuils roulants avec des perfusions dans les bras, on les maintenait de force et on les tabassait dans les couloirs. C'est comme ça, c'est véritablement une justice de guerre civile quoi qui prévalait à ça. Les amis, les familles pouvaient pas rentrer dans la salle. Il y avait des flics menaçants qui empêchaient absolument de pouvoir assister au débat et les prisonniers étaient cognés dans les couloirs. Cogné même parce qu'il y avait véritablement une haine de l'appareil policier par rapport à eux qui se
alors voilà, on s'approche. Entrée formellement interdite au ministère de la Justice, c'est pas nous qui nous accueille.
Alors voilà, on est samedi matin, samedi 26 février 2005, et on est parti tôt ce matin de Paris, on a pris l'autoroute, et nous voici sortie numéro 13, Bapaume. Bapaume, petite ville du nord de la France, donc une église, un monument aux morts, deux supermarchés, et une prison. Et c'est là qu'on va manifester, puisque c'est la prison où Nathalie Ménigon et Joël Aubron ont passé plusieurs années de leur vie. Aujourd'hui, Joël Aubron est dehors pour raison médicale, mais Nathalie Ménigon est encore enfermée dans la prison pour femmes de Bapaume. Et donc on est rassemblés, une cinquantaine, soixantaine de personnes pour l'instant. Il y aura peut-être un peu plus de monde tout à l'heure. Pour demander la libération des militantes et militants d'Action Directe. S'il y a des manifestations qui ont lieu à Sichheim où Georges Cipriani est enfermé, et puis dans une autre prison dans le sud de la France, là où Jean-Marc Rouillant est enfermé. Alors là, ces manifestations ont lieu puisque c'est le 18e anniversaire de leur emprisonnement. C'est-à-dire que ça fait 18 ans que les militants d'Action Directe sont en prison, et c'est donc la fin de la peine incompressible puisqu'ils avaient été condamnés à perpétuité avec 18 ans incompressibles. Et donc les militants sont venus demander un petit peu et la libération des camarades, mais aussi jusqu'à quand va durer cette peine. Est-ce que c'est une peine de prison à vie, ou est-ce que, à un moment donné, cette peine doit prendre fin ?
Ça suffit ! Rendez-nous Nathalie !
Alors voilà, on était sur le parking du supermarché Aldi, et le cortège s'ébranle pour aller manifester devant. Devant la prison. On devrait escalader une petite colline pour pouvoir être visible, pour que les prisonnières puissent nous voir depuis la fenêtre de leur cellule.
Gardez Bapon, libérez Ménigon. Gardez Bapon, libérez Ménigon.
Rendez-nous Nathalie, 18 ans, ça suffit. Rendez-nous
Alors voilà, on va continuer notre petit voyage à Bapaume. Et donc on est devant... devant la prison de Bapaume, et alors là on peut jamais être tranquille, il y a Joli Môme qui arrive et ils sortent leur drapeau et dans un froid polaire ils se mettent à nous chanter quelques chansons. Donc on va faire un petit peu une red session dans cette émission, une rouge session. On va vous repasser quelques titres de Joli Môme live devant la prison de Bapaume.
Produit de l'argent. c'est que nous sommes bien vivants.
Voilà, donc c'est un live devant le centre de détention de Bapaume de la compagnie Jolimaume.
Nous détruirons toutes les prisons, mur par mur et pierre par pierre. Nous détruirons toutes les prisons, mur par mur et pierre par pierre. Nous détruirons toutes les prisons.
Précisément aujourd'hui devant le CD de Bapaume, où est détenue Nathalie Ménigaud, qui est ici depuis quelques années. Il faut savoir que dans ce centre de détention, qui est un centre de détention entre guillemets normal, et que rien que ça, ça n'a pas été quelque chose d'automatique. Pendant 12 ans, 13 ans, elles sont restées en régime spécial à la maison à Fleury, dans des quartiers qui avaient été construits spécialement pour elles et dans des conditions de détention qui ne sont pas des conditions de détention normal, entre guillemets, s'il peut y avoir une détention normale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que le droit n'a rien à faire avec la détention des prisonniers, des militants politiques d'Action Directe. Ça n'a jamais été une détention qui a été gérée ici. Il y a un directeur qui s'appelle Monsieur Laurent, qui fait semblant, quand on lui demande des trucs, de gérer la détention de Nathalie Ménigaud et de Joël, qui étaient avant emprisonnés ici. Et au bout du compte, au bout d'un moment, quand on est devant des décisions à prendre, bah, c'est jamais le directeur du centre de Bapaume qui prend les décisions. Les décisions, elles sont prises directement au niveau du ministère de la Justice. La détention des militants d'Action Directe est une détention politique. S'ils avaient été soumis à un régime de droit commun, ils seraient déjà dehors. Aujourd'hui, ces 18 ans de sûreté sont finis. Aujourd'hui, Nathalie a accompli sa peine, elle doit sortir. On sait que notre venue ici pour sonner à cette porte et leur demander de libérer Nathalie est complètement symbolique. Pourquoi on sait ça? Ben simplement parce qu'il y a un autre prisonnier, un cinquième d'Action Directe, qui est prisonnier, lui, depuis 1982, et qui est arrivé au bout de sa peine de sûreté il y a 6 ans. Et depuis 6 ans, il fait des demandes et elles sont refusées. L'avant-dernière demande qui lui a été refusée, le procureur a eu la bêtise d'écrire noir sur blanc ce qu'il pensait. Et ce qu'il pensait, c'est clair, c'est Régis ne se repent pas, Régis ne renie pas ses idées. C'est un chantage au reniement qu'on fait pour le maintenir en prison. Il est au bout de 21 ans de détention. Ça fait 6 ans qu'il est libérable. Il ne se repent pas, il ne renie pas ses idées, il ne sortira pas. Il est passé. Il y a actuellement une procédure de demande de mise en liberté pour Régis. La décision devait être rendue le 15 janvier. On est toujours sans nouvelles de cette décision. Aujourd'hui, on arrive au bout des 18 ans. Pour Nathalie ici, il y a deux autres manifs qui sont prévues, une à 15h, une à 16h, devant Ensisheim et à Lannemezan à 15h, pardon, et Ensisheim à 16h. Lannemezan où est détenu Jean-Marc Rouillant et Ensisheim où est détenu Georges Cipriani. On est venu de tous les coins de France, de Navarre, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, devant ces trois centres de détention pour demander à ce qu'ils soient libérés. Cette libération, on ne l'aura pas, on ne nous en fera pas cadeau. Cette libération, on l'aura si on est capable de se mobiliser, de faire changer le rapport de force. Aujourd'hui, ce qu'on a gagné, depuis quelques années, depuis 3-4 ans, c'est que le silence est rompu. On reparle les militants d'Action Directe dans les journaux, on en reparle dans les radios, on en reparle aussi dans les groupes militants qui, pendant des années, ont laissé tomber ce truc-là. On les avait oubliés, ils étaient dans les oubliettes de la République. Il faut qu'on construise une vraie mobilisation pour dire maintenant c'est fini, ils ne retomberont pas dans l'oubli et on sera là jusqu'à ce qu'ils soient libérés.
Voilà, donc on était devant la prison de Bapaume et Alain Pojola, un des animateurs du collectif Ne Laissons Pas Faire, qu'on a entendu en début de cette émission, lui était à l'intérieur puisqu'il avait un parloir avec Nathalie Ménigaud et donc il sort et il s'adresse à la foule.
Une déclaration qu'a faite Nathalie il y a quelques minutes et qui vous est destinée, que j'ai repris au stylo. Salut à tous et à toutes, à tous les camarades et amis venus ici pour soutenir et demander notre libération sans condition. Je me réjouis de vous savoir si près. Dans cette période réactionnaire, notre mobilisation est importante. Il est essentiel de lutter encore plus pour nos vies et surtout pour l'émancipation des opprimés et les exploités. Lutter est notre lien avec nos chants révolutionnaires et nos rires,
avec tous les prisonniers révolutionnaires pour la libération des peuples basques, palestiniens et irakiens. Abat le capital mondial, abat les prisons impérialistes. Élaborons notre avenir, avançons sur les chemins révolutionnaires. Nathalie Ménigon.
Bravo. Pour les marins révoltés du Potemkin, les soviets pacifistes écrasés à la courtine, les mutins de Kron, Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, les grévistes de 1936, les mineurs d'Oviedo, les volontaires des brigades internationales, le courage de nos frères anarchistes...
Bon alors, on va glisser notre micro au milieu des caméras et des micros des médias bourgeois.
Hors du commun, avec des périodes d'isolement extrêmement dures. Aujourd'hui, Nathalie, elle est atteinte physiquement dans sa chair par ses années de détention. Elle a été opérée avant-hier d'un kyste au poignet qui la faisait souffrir énormément et qui était consécutif aux deux accidents vasculaires cérébraux qu'elle avait fait avec une atrophie partielle du poignet gauche et de son pied gauche également. Maintenant, on dit ça suffit, le compte à rebours a commencé pour nous. Ce maintien en détention aujourd'hui n'est plus légitime, absolument pas. Il ne l'était pas avant, mais il a perdu tout vernis, tout argusie judiciaire, toute légalité aujourd'hui. Il faut qu'elle sorte tout de suite.
Vous comprenez que ça puisse causer un débat, un problème vis-à-vis de l'opinion, que ça puisse paraître choquant?
Mais je pense que l'opinion n'est pas choquée du tout. Je pense que quand on voit la société absolument... injuste et encore pire que quand les militants d'Action Directe sont rentrés en prison. Je pense que c'est absolument pas choquant qu'on libère des militants révolutionnaires qui aujourd'hui sont à la fin de leur peine de sûreté. Ce qu'elle a concrètement, c'est qu'elle a été extrêmement affaiblie par les deux accidents vasculaires cérébraux qu'elle a fait, qu'elle n'a jamais pu véritablement bénéficier de soins nécessaires à son rétablissement, qu'elle a été obligée, elle, de faire un effort terrible pour recouvrer la mémoire qui l'avait quittée partiellement avec ses AVC. Elle ne doit absolument rien à l'administration pénitentiaire qui n'a jamais rien fait pour elle. On contrôle très peu aujourd'hui son état de santé. Par exemple, elle a des prises de sang tout à fait... aléatoire, alors que la question de quand on a fait un accident vasculaire cérébral, la fluidité du sang, c'est quelque chose de très important. Elle n'a absolument aucun contrôle médical aujourd'hui en prison. Elle est absolument délaissée. De même qu'on a appris le scandale des deux dossiers médicaux de Jean-Marc Rouillant qui ont été égarés. Égarés pour la deuxième fois, on prétend aujourd'hui qu'il y a une médecine en prison. On sait maintenant qu'on nous redit une nouvelle fois qu'il a un cancer des poumons, mais on nous dit aussi qu'on a perdu pour une deuxième fois son dossier médical. C'est absolument inacceptable. Ça nous prouve aujourd'hui que les militants d'Action Directe, ils sont véritablement victimes d'une persécution particulière et que l'État veut leur mort. Nous, on veut absolument qu'ils soient libérés dans les plus brefs délais et on craint pour leur vie. Donc le compte à rebours est commencé, c'est une nouvelle période qui s'ouvre. Il n'y a plus aucune légitimité à leur maintien en prison, même d'un point de vue étatique. Donc on veut absolument qu'ils soient libérés dans les jours qui viennent.
De quoi vous avez parlé pendant 3 heures ce matin?
Ben vous savez, avec Nathalie, on parle de beaucoup de choses. On parle littérature, on parle de politique, évidemment, parce que ça l'intéresse beaucoup. C'est une militante politique. Donc on parle de tout, de ce qui se passe, des saloperies de la droite, avec les appartements de Guémard, des choses comme ça. On parle des plans de restructuration. On parle de la campagne pour le non à l'Europe. On parle de plein de choses comme ça.
Vous voilà. Êtes en contact régulièrement avec elle?
Ben c'est une amie de 30 ans. Donc oui, je suis en contact permanent avec elle. Voilà.
Merci beaucoup.
Une fille vient planter sur
Soviet pacifiste écrasé à la courtine, les mutins de Krahn, Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, les grévistes de 1936, les mineurs d'Oviedo, les volontaires des brigades internationales, le courage de nos frères anarchistes, les résistants, Manouchian, ses 22 camarades, les FTP Moy, les manifestants piétinés à Charonne, les Algériens jetés à la Seine le 17 octobre 1961, Victor Jara, les 9 millions de grévistes de 1968, Le Che et ses guerrieros, les dockers de Liverpool, les travailleurs de Séoul, pour le peuple cubain victime de l'embargo, le peuple kurde, les prisonniers turcs, le peuple algérien et nos camarades kabyles, le peuple afghan, le peuple argentin, les peuples de l'ex-Yougoslavie, le peuple tchétchène, le peuple des deux Corées, le peuple du Rwanda, du Soudan, de Sierra Leone, le peuple sahraoui, les paysans sans terre du Brésil, les Indiens du Chiapas, Carlo Giuliani, abattu par la police capitaliste à Gênes, Mumia Abou-Jamal, Léonard Peltier, ainsi que tous les innocents exécutés dans les prisons états-uniennes. Pour la lutte des sans-papiers, sans logis, sans travail, les Roms. Pour le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple haïtien, le peuple du Congo, le peuple du Togo. Pour le peuple irakien, le peuple palestinien et les anticolonialistes israéliens, encore trop peu nombreux, et aujourd'hui tout spécialement. Pour Nathalie Ménigon, Joël Ombron, Régis Schlecher, Georges Cipriani et Jean-Marc Rouillon. Rouillon.
Alors voilà, on est toujours à Bapaume, toujours le 26 février pour ce long reportage sur la manifestation pour demander la libération des militantes et militants d'Action Directe.
Pied par pied, mur par mur, abattons toutes les prisons.
Alors voilà, on est monté sur la petite colline, ouais. Un talus, on va dire que c'est un gros talus. Et effectivement, d'ici... on a pris un peu de surplomb et on voit les fenêtres des cellules. Voilà, donc il y a tout un tas de drapeaux rouges, des drapeaux de la CNT, des banderoles, libérer les militantes et militants d'Action Directe. La compagnie Jolie Môme qui est montée aussi avec ses grands drapeaux rouges. Et voilà, donc les militants s'époumonnent dans leur mégaphone pour essayer de se faire entendre des détenus.
Solidarité! Alors Madeleine, toi tu connais la prison devant laquelle on est. Tu dis combien il y a de détenus là?
Je dis que la prison est faite pour 600 hommes et 100 femmes. Et normalement ils ne sont pas deux par cellule. Ils ont chacun une cellule individuelle.
Alors tu disais les conditions de détention des femmes sont, il y a beaucoup moins de choses qui leur...
Évidemment, pour les femmes, étant donné qu'il y a moins de femmes, il y a beaucoup moins d'activités proposées aux femmes. Et les femmes elles-mêmes ont beaucoup de mal à... Elles sont vraiment... C'est des longues peines et elles ont vraiment beaucoup de mal à faire quoi que ce soit. Elles sont toute la journée devant la télévision.
Là, ça ressemble à quoi? Il y a un bâtiment homme, un bâtiment femme, c'est réparti?
Il y a des bâtiments hommes et les bâtiments femmes sont presque devant nous, là, c'est pour ça que nous sommes là et qu'on les aperçoit juste le sommet, ils sont plus bas que les autres.
18 ans, ça suffit,
rendez-nous, Nathalie!
18 ans, ça suffit, rendez-nous, Nathalie!
18 ans, ça suffit!
Alors voilà, la manifestation s'est terminée. Dans le froid, la joie et l'espoir. Une petite heure après, on a retrouvé notre camarade Alain Pojola, avec qui on a essayé de faire un petit peu le point, au calme. Voilà, donc on écoute pour terminer Alain Pojola. Voilà, donc là on est avec Alain Pojola, un des animateurs du collectif Ne Laissons Pas Faire. Donc la journée d'aujourd'hui, on semble être bien se passer. Il y a eu une mobilisation ce matin ici, mais ça se passe aussi un peu partout en France. Tu peux nous dire deux mots sur ce qui se passe un peu partout?
Déjà à Bapaume, on était 120, ce qui est pas mal. Venu de d'endroits bien différents, il y avait des camarades belges, il y avait une camarade allemande, Singlin Hoffmann, pour ceux qui se souviennent un peu, c'est une des plus vieilles militantes de la RAF, qui avait été contemporaine de la RAF à l'époque de Steinmein, de sinistre mémoire. Tout ça a été extrêmement fraternel, extrêmement solidaire. On a réussi à manifester autour de la prison avec des prisonniers aux fenêtres qui faisaient des saluts et qui manifestaient leur solidarité. Donc j'ai vu Nathalie ce matin au parloir qui disait que pour elle maintenant c'était une nouvelle période qui s'ouvrait, un véritable compte à rebours dans lequel on dit qu'il n'y a plus aucune légitimité pour l'État français à garder Nathalie derrière les barreaux, Nathalie et ses camarades. Les 18 ans ont été accomplis, 18 ans qui ont été très durs avec des périodes d'isolement extrêmement importantes, avec des grèves de la faim de plus de 100 jours, il faut le rappeler quand même, avec un véritable lynchage judiciaire. Donc ça suffit, il faut qu'ils sortent maintenant. C'est ça qu'on est venu dire autour de la prison. Alors on sait qu'à l'heure où on parle en ce moment, il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont devant la prison de Lannemezan, alors que la manifestation est prévue pour dans une heure à peu près. On a des nouvelles très intéressantes aussi de manifestations de solidarité qui se sont passées aussi bien en Grèce avant-hier où l'agence de l'AFP a été occupée pendant 30 minutes et a précédé une manifestation de rue par des jeunes anarchistes, nous dit-on, d'après l'AFP grecque. Ce matin, à Barcelone, il y a eu invasion du consulat français, avec un certain nombre d'actions à l'intérieur du consulat et tout le monde est parti sans se faire arrêter. Et à Madrid, une manifestation a lieu au moment où on parle en ce moment.
Alors, on a des nouvelles pas rassurantes de Jean-Marc Rouillant.
Alors Jean-Marc, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que on a annoncé qu'il avait un cancer, puis qu'il n'en avait pas, puis qu'il en avait finalement un, et puis après qu'il n'en avait plus, et tout d'un coup... Depuis qu'il est rentré à Lannemezan et qu'il a suivi un certain nombre d'examens, le médecin lui redit qu'il a effectivement un cancer du poumon. Alors ce qui est absolument extravagant, c'est que l'administration pénitentiaire nous dit avoir perdu pour une deuxième fois son dossier médical. Alors, soit on est vraiment dans une situation alors de manque de sérieux total, ce sont des clowns, ou alors, ce qu'on croit, nous, plutôt, c'est que non, ce ne sont pas des clowns, ce sont des clowns dangereux et des clowns organisés, et que, véritablement, il y a une persécution des militants d'Action Directe et qu'ils veulent les faire mourir en prison.
Alors, il y a, je me souviens du premier tract, premier autocollant que j'ai vu de votre collectif, c'était marqué 12 ans, ça suffit. Ça fait 6 ans qu'il y a une mobilisation qui tente de se faire et de naître autour des militantes et militants d'Action Directe. Pas de demander de faire un bilan comme ça en une minute, mais il y a eu du chemin parcouru.
Bah, déjà, ça prouve l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, notre collectif y tient bon et il a décidé de ne se dissoudre que quand le dernier des militants d'Action Directe sera dehors. Ça veut dire qu'on a affaire à un ennemi qui est très puissant et qu'on arrive à arracher un certain nombre de victoires. Par exemple, si Joël Aubron est encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a sorti. Aujourd'hui, bon, il faut savoir qu'elle a subi, par exemple, une opération extrêmement délicate le mois dernier suite à une évolution de sa maladie avec une métastase qui prenait de l'ampleur et qui se déplaçait dans son cerveau. Si elle était restée à Bapaume, elle serait décédée à l'heure actuelle. Alors oui, c'est la mobilisation qui a permis, avec l'invasion de l'ordre des médecins, avec la mise en cause de la médecine carcérale, avec l'interpellation du pouvoir, c'est la mobilisation qui a permis que Joël sorte de leurs griffes. De même que c'était la mobilisation qui avait permis de comprendre ce qui était en train de se passer pour Georges Cipriani, qui, suite à une période d'isolement extrêmement dure, extrêmement importante, avait sombré dans ce qu'on a appelé la folie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il avait des problèmes psychiatriques extrêmement importants. Donc oui, notre mobilisation, elle a servi à ça, de les faire sortir de l'oubli, faire en sorte qu'il y ait des campagnes médiatiques qui en parlent, alors que ce que rêvait l'État, c'était de les voir mourir dans ces oubliettes. Donc oui, le combat continue, bien évidemment. Alors il y en a qui peuvent se dire ils sont entêtés. Oui, on est très entêtés. On disait 12 ans, ça suffit. C'était déjà intolérable à l'époque. Maintenant que la peine incompressible elle est enfin terminée, il n'y a plus aucun vernis légal de l'État de les conserver en prison.
Bon courage.
Merci. You are welcome.
Ben voilà, c'était donc notre reportage sur la journée d'action pour la libération des militantes et militants d'Action Directe. Je crois que ça fait 18 fois qu'on le dit dans cette émission. Ben voilà, on vous tiendra au courant des prochaines échéances, des prochaines initiatives. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui.